Deutsche Welle. Afrique 7 jours.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Afrique 7 jours. Et là, c'est bien la version intégrale du magazine. Au menu donc de ce magazine, comme toujours, l'Afro-Presse, l'Afrique à travers la presse allemande. Et c'est avec Philippe Poyan. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Alors, est-ce qu'on peut avoir un avant-goût de ce qu'ont écrit les éditorialistes allemands sur l'actualité africaine cette semaine ?
Oui, nous avons retenu deux thèmes. L'un concerne l'Afrique du Sud, où le mécontentement contre l'ANC, le parti au pouvoir, grandit de jour en jour au sein de la population, et particulièrement chez les étudiants. Et puis, le second thème concerne l'Ouganda, où le régime du président Museveni fait régner une atmosphère d'intimidation. Il a muselé tous les opposants pendant, mais même après, le scrutin du 18 février dernier.
Voilà, l'Afro-Presse, c'est tout à l'heure, juste après la rubrique Blogosphère. À tout à l'heure, Philippe.
À tout à l'heure, Eric.
Afrique 7 jours, c'est justement aussi Blogosphère, la tribune dédiée aux blogueurs africains. Et nous recevons ce soir Maurice Tantan en ligne de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Bonsoir, Maurice Tantan.
Bonsoir Eric.
Je reviendrai à vous tout à l'heure dans la rubrique Blogosphère et nous allons reparler du premier tour de l'élection présidentielle au Bénin. Un scrutin qui a lieu ce dimanche et on vient d'ailleurs d'en reparler il y a quelques minutes dans notre émission spéciale. Et donc à tout à l'heure Maurice Tantan.
D'accord.
Afrique 7 jours, c'est d'abord la rétrospective hebdomadaire de l'actualité africaine. En République centrafricaine, cet officiel, Faustin Archange Touadéra, est bien le tout nouveau président de ce pays. Il a été confirmé par la Cour constitutionnelle et devrait prêter serment d'ici à la fin du mois de mars. Mais son élection ne consacre-t-elle pas le retour de l'establishment du président déchu, François Bozizé ? Écoutez la réponse de Jean-Baptiste Koba, le porte-parole des candidats qui ont soutenu Faustin Archange Touadéra au second tour.
La victoire du président Touadéra n'est absolument pas ce que vous venez de dire. Les Centrafricains ont plébiscité cet homme et ce plébiscite n'est certainement pas un enthousiasme de la population centrafricaine pour un retour à l'ordre ancien. Le président Touadéra s'est présenté en candidat indépendant. Il est bien évident qu'il a présenté son bilan et il se trouve que son bilan est un bilan qui le situe pendant 5 années de fonction en tant que Premier ministre du président Bozizé. Ça s'arrête là. La campagne ne s'est pas faite autour d'une espèce d'héritage qu'il y aurait de sa part vis-à-vis du président Bozizé.
Le porte-parole des candidats qui ont soutenu Faustin Archange Touadéra au second tour de la présidentielle en RCA et ce porte-parole s'appelle Jean-Baptiste Koba. D'une actualité électorale à une autre, nous nous rendons maintenant au Niger, où le second tour de la présidentielle dans ce pays aura lieu le 20 mars 2016. Un rappel, ce second tour opposera le président sortant, Mahamadou Issoufou, et l'un de ses rivaux les plus farouches, Hama Amadou. L'opposant, lui, est toujours en détention préventive dans le cadre d'une affaire de trafic présumé de bébés. Mais les partisans de Hama Amadou veulent y croire, notamment à la victoire de leur leader. Maître Babacara Mossi est l'un des avocats de Hama Amadou.
Le programme pour le Niger sera un programme de bonheur. Notre leader
a l'avantage d'être parmi les hommes les plus sûrs qui connaissent mieux le pays et l'administration du pays. Il a fait ses preuves dans l'administration. C'est le seul qui a fait 7 ans d'affilée à la primature en tant que premier ministre dans ce pays où tous les jours vous ne gérez que des problèmes, où tous les jours vous passez 80% de votre temps à régler des crises et des faux problèmes que d'exécuter un programme. Lui, il a su rester 7 ans. Et pendant les 10 ans que Tanja est resté, c'est lui qui est, il y a eu 7 ans de stabilité. Et pendant ces 7 ans, c'est lui qui était à la primature.
Voilà, maître Boubacar Moussi, qui est l'un des avocats de l'opposant Hama Amadou. Maître Boubacar Moussi est aussi le vice-président du groupe parlementaire Modem Fa Lumana, le parti de Hama Amadou. Cette semaine, l'écrivain et homme politique ivoirien Bernard Benlin Dadié était l'invité de la rédaction « Le père de la littérature ivoirienne » ou devrait-on plutôt dire « Le grand-père » a été le double lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire et à la fois poète et militant. Mais surtout, il est également centenaire et malgré le poids de l'âge, Bernard Benlin Dadié a toujours son mot à dire sur l'actualité politique de son pays.
Moi, le Gbagbo, on l'a combattu au départ. Gbagbo avait demandé aux gens de compter les voix. Ils ont dit non. J'ai dit, chez nous en Afrique, quand il y a des problèmes comme ça, on compte les voix et on voit qui a raison ou qui a tort. Donc quand Gbagbo a dit comptons, il fallait compter. Ça coupe court à tout. On a dit non, vous voyez, on a mis Gbagbo en prison. Pour moi, ce qu'ils ont vécu comme prisonnier, on l'a mis à l'écart. Ce n'est pas une prison. C'est mettre quelqu'un à l'écart pour jouer le jeu.
L'écrivain et homme politique ivoirien Bernard Benlin Dadié, qui a récemment donc fêté ses 100 ans, et vous l'aurez sans doute constaté, il a conservé toute sa lucidité intellectuelle. Bernard Benlin Dadié était l'invité de la rédaction mercredi dernier et il a été interrogé à Abidjan par Julien Adaï, notre correspondant dans la capitale économique ivoirienne.
Dans des conditions qu'on déplore, ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Ils allument le feu, ils activent.
Vous écoutez toujours Afrique 7 jours et c'est bien sûr sur les antennes de la Deutsche Welle depuis nos studios de Bonn en Allemagne. Place maintenant à notre invité de la rubrique Blogosphère bien sûr et nous prenons la direction de Cotonou, la capitale économique du Bénin.
Blogosphère.
Maurice Tantan, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Alors, les Béninois étaient appelés aujourd'hui à élire leur président de la République. C'est lui qui devrait en principe succéder au président sortant, Thomas Yayi Boni. Une trentaine de candidats sont en lice. Est-ce n'est pas un record dans la vie politique de votre pays, le Bénin?
Oui, ils sont précisément 33. À l'origine, 48 avaient déposé le dossier à la Commission électorale nationale autonome. Mais après étude et après vérification des personnes qui ont déposé la caution nécessaire de 15 millions de francs CFA au trésor public, seulement 36 ont été retenus par la Cour constitutionnelle. Mais en cours de chemin, 3 ont désisté et on s'est retrouvé finalement avec 33 candidats. C'est quand même un record. Surtout pour un petit pays comme le nôtre qui dépasse très légèrement les 10 millions d'habitants, c'est quand même un nombre impressionnant.
Les bureaux de vote commencent déjà par fermer au moment où nous émettons. On ne peut pas donc dans l'immédiat savoir qui de ces candidats peut sortir de la tête de l'eau. Mais déjà pendant la campagne, deux noms étaient régulièrement cités. Hein, le roi du coton, Patrice Talon, et celui qu'on peut peut-être appeler aussi l'empereur du poulet, Sébastien Adiavon.
On a beaucoup entendu parler d'eux parce que ce sont en fait de nouveaux venus dans la politique parce que ce sont deux hommes d'affaires qui historiquement sont restés dans le monde des affaires et ont contribué d'une manière ou d'une autre à faire élire des présidents. Vous n'êtes pas sans savoir que Patrice Talon, qui est un magnat du coton, a été soutien principal du président sortant Boni Yayi en 2006. Il a aussi activement contribué à sa réélection en 2011 avant que les problèmes n'arrivent entre les deux et que Patrice Talon soit contraint à l'exil durant 3 ans avant de revenir.
Oui, exactement. Patrice Talon est rentré au Bénin en octobre 2015, mais beaucoup d'analystes béninois que nous avons joints pensent que c'est la candidature de Talon qui aurait motivé celle de son rival, de son concurrent Adiavon. Est-ce que vous confirmez ces analyses?
Je ne saurais confirmer ces analyses. Comme vous l'avez dit, c'est des personnes qui ont avancé ces propos. Mais le candidat Sébastien Adiavon n'a pas justifié sa candidature par ce motif-là. Mais je ne serais vraiment pas dit que c'est la candidature de Patrice Talon qui a motivé celle de Sébastien Adiavon. Mais ce qui est sûr, jusqu'à une époque récente, on ne savait pas que personne n'aurait imaginé Sébastien Adiavon comme candidat.
Oui, c'est en janvier. C'est en janvier 2016 qu'il a annoncé sa candidature.
Voilà, qu'il n'allait jamais faire la politique. Et donc, quand on voit le timing dans lequel les deux ont annoncé leur candidature respective, on peut être tenté de croire que c'est parce que l'un a annoncé que l'autre l'a fait également. Mais ça reste de l'ordre de l'analyse, quoi.
Justement, autre analyse, hein, les gens pensent que le président Thomas Boni Yayi a deux chevaux, disons le premier ministre Lionel Zinsou et l'homme d'affaires Adiavon. La preuve, selon beaucoup de gens, c'est que Rachidi Badamassi, qui est également un des piliers hein, de Parakou des forces Kori pour un Bénin émergent, a préféré soutenir Adiavon, d'où ce choix de Yayi Boni pour les deux chevaux, hein, que ce soit Zinsou ou Adiavon. Au moins, il peut se targuer que l'un des deux aura gagné. Est-ce que vous avez appris ça?
C'est une information qui circule depuis très longtemps à Cotonou, dans tout le pays de manière générale. Et je pense que, enfin, ça peut être vrai. Ça peut être vrai parce que, de toutes les manières, le président Boni Yayi est en train de bâtir. Et je pense que il est en train de mettre tous les moyens pour regarder ses arrières. Et donc, il vaut mieux avoir deux chevaux dans la bataille. Pouvoir compter sur l'un au cas où l'autre serait en mauvaise position. Je ne sais pas si vous avez lu un article du quotidien du journal français L'Express qui a été publié ce vendredi 4 mars, dans lequel le premier ministre et actuel candidat de la coalition au pouvoir reconnaît quand même que avant qu'il ne soit désigné comme candidat de FCBE, l'alternative pour le président Boni Yayi était quand même Sébastien Adiavon. Donc ce qui vient corroborer d'une certaine manière que Sébastien Adiavon soit peut-être le deuxième choix de Boni Yayi au cas où les résultats ne seraient pas en bonne position.
On ne va pas spéculer, mais selon vous, qui a les meilleures chances de remporter le scrutin de ce dimanche?
Ben, je ne saurais le dire comme on ne va pas spéculer non plus, attendre les résultats. Mais je pense que au cours de toute la campagne électorale, il y a 4 à 5, non, qui sont revenus très largement et qui sont les 5 personnes qui ont quand même des chances de se retrouver au second tour. Il y a évidemment le premier ministre Lionel Jospin qui est porté par la coalition de partis au pouvoir, mais également soutenu par deux grands partis historiquement qui ont toujours fait l'opposition, la RB et le PRB. Il y a les deux hommes d'affaires, évidemment, Patrice Talon et Sébastien Adjavon, qui ont déployé quand même de gros moyens durant la campagne. Et il y a aussi des technocrates comme l'ancien Premier ministre Pascal Irene Koupaki, qui lui est allé sur le terrain depuis très longtemps et qui a aussi quand même mobilisé pas mal de monde. Et l'ancien ministre de l'économie et des finances et ancien fonctionnaire de la BCAO et de la BOAD, Abdoulaye Diop Tchané, qui conserve quand même pas mal de chances. Donc, on ne va pas spéculer, on va attendre les premières grandes tendances qui vont être dévoilées par la finale.
Ok, donc c'est un scrutin assez ouvert quand même, hein, c'est ça?
Oui, c'est très ouvert, c'est assez ouvert entre certains candidats. Je pense que au-delà de certains candidats, le reste ne vont pas vraiment peser un grand poids dans la balance. Je crois que ça va être partagé entre ces 5 candidats-là.
Maurice Tantan, dans le cadre donc de ce premier tour de la présidentielle au Bénin, les blogueurs béninois se sont également mobilisés pour assurer la transparence du scrutin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors, depuis novembre 2015, les blogueurs du Bénin ont lancé un projet que nous avons appelé Bénin Vote 2016, qui est parti en fait d'un constat. Le constat que nous avons fait, c'est que en 2016, plus qu'en 2011, les réseaux sociaux ont joué et continuent de jouer un rôle important dans l'élection présidentielle. Que ce soit sur Facebook, sur Twitter, tous les candidats à la présidentielle sont présents et leurs militants, leurs partisans sont également présents et animent les réseaux sociaux. Ce qui est remarqué, c'est que, évidemment, ce sont des partisans. Et donc, l'information qu'ils envoient n'est pas forcément l'information qui est pertinente, qui est vérifiée et qui peut être utile pour un citoyen lambda qui a besoin de l'information par rapport à cette élection. Et donc, ce que nous faisons, nous relayons de l'information qui soit vérifiée, qui soit crédible, notamment en provenance de la Commission électorale nationale autonome, qui est présente également sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Nous relayons des informations qui soient en provenance de la société civile, mais aussi de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est pour quand même envoyer de l'information qui soit vérifiable, relayée. Nous communiquons énormément sur le code électoral, les dispositions que prévoit le code électoral pour que les citoyens soient informés. Et c'est autre chose que nous avons fait qui est très importante. Nous avons formé des e-observateurs, c'est-à-dire que ce sont des jeunes, des blogueurs, qui ont des téléphones portables intelligents connectés à Internet, qui sont un peu partout dans le Bénin. Nous les avons conviés à une formation de 2 jours à Cotonou et nous leur avons donné quelques outils pour quand même faire de la veille sur les réseaux sociaux. Et donc, le jour du scrutin, ils sillonnent des centres de route pour nous envoyer des informations sur toutes les images. Et voilà en gros ce que nous avons fait. Et durant la campagne électorale, nous avons quand même organisé des chats, c'est-à-dire que nous avons invité des candidats à la présidentielle sur les réseaux sociaux Twitter et nous avons conversé avec eux. Donc les citoyens ont posé des questions à ces candidats sur leur programme de société et ils ont répondu. Vous pouvez retrouver le fil de cette discussion sur Twitter en tapant notamment 229.
C'est une initiative assez louable hein, et je crois que les blogueurs guinéens se sont également, en fait, ont fait pareil lors de la présidentielle dans leur pays l'année dernière. Merci beaucoup Maurice Tantan pour tous ces éléments et on suit bien évidemment l'actualité électorale dans votre pays avec peut-être déjà à partir de demain ou au courant de la semaine qui commence demain les premières tendances hein, de cette élection.
Merci beaucoup.
Et à bientôt sur nos ondes. Dernière rubrique d'Afrique 7 jours, l'Afro-Presse, l'Afrique à travers la presse allemande. Et rebonsoir Philippe.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Alors nous commençons par l'Afrique du Sud où le mécontentement contre l'ANC au pouvoir grandit au sein de la population, particulièrement chez les étudiants.
En effet, la colère gronde parmi les étudiants d'Afrique du Sud. Une colère alimentée par le sentiment que plus de deux décennies après la fin de l'apartheid, l'injustice et l'inégalité règnent encore aujourd'hui. C'est ce que rapporte la Süddeutsche Zeitung. En octobre dernier déjà, quelques centaines d'étudiants avaient essayé d'occuper le Parlement au Cap pour protester contre les frais universitaires, qui doivent d'ailleurs encore être prochainement augmentés. Ces frais qui coupent l'accès aux études des enfants de familles noires plus pauvres sont pour beaucoup le symbole de la cimentation des vieilles structures dans lesquelles la minorité blanche domine toujours. Les frais universitaires n'ont été que la goutte qui a fait déborder le vase. Les protestations qui, depuis, se multiplient ont des motivations plus larges et visent le parti au pouvoir, l'ANC, le mouvement de libération de Nelson Mandela, qui, selon les jeunes, détruit l'héritage du père de la nation. Ils ont le sentiment que l'ANC leur vole l'avenir meilleur qu'on leur avait pourtant promis. Maintenant, un nouveau semestre a commencé au Cap et les protestations reviennent. Les étudiants visent aussi tous les symboles de la culture coloniale qui dominent encore le monde académique. Ainsi, des étudiants en colère ont décroché des murs de l'université tous les portraits d'universitaires blancs et les ont brûlés sur un bûcher. Ce sont de bien mauvais jours pour la minorité de plus en plus réduite des optimistes qui veulent toujours croire que depuis la chute de l'apartheid, la société sud-africaine est vraiment devenue la nation en arc-en-ciel, proclamée à l'époque par l'archevêque et prix Nobel de la paix Desmond Tutu. C'est ainsi, conclut la Süddeutsche, le quotidien de Munich, on se rend compte que les vieux ressentiments couvent encore sous la surface et que beaucoup de blessures sont cachées, mais pas encore cicatrisées.
Après l'Afrique du Sud, on met le cap sur l'Ouganda, où le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 30 ans, a été réélu le 18 février dernier pour un cinquième mandat. Et le régime Philippe se livre à une démonstration de force avec un important dispositif de policiers et militaires à Kampala, la capitale.
Oui, depuis le scrutin remporté haut la main par le président Museveni avec 61% des voix, selon la commission électorale, les opposants sont quotidiennement victimes de harcèlement, d'intimidation et nombre de leurs partisans sont arrêtés par la police, rapporte la TAT, die Tageszeitung. Le principal candidat de l'opposition, Kizza Besigye, du parti FDC, c'est le Forum pour le changement démocratique, est pratiquement en résidence surveillée. Sa villa dans le quartier de Kisangati est encerclée jour et nuit par des véhicules de police et des planches hérissées de clous bloquent l'entrée de la propriété. Les journalistes qui tentent de s'approcher sont immédiatement chassés de manière brutale par les policiers ou même arrêtés. Même ses avocats et ses camarades de parti ne peuvent pas lui rendre visite. Et dès que Besigye quitte sa maison, les policiers l'interceptent et le jettent dans un fourgon blindé. Une douzaine de fois déjà depuis les élections, Besigye s'est ainsi retrouvé en cellule, sans motif précis d'inculpation. Les critiques internationales se multiplient, relève l'éditorialiste. Des observateurs internationaux ont mis en cause l'indépendance de la commission électorale. Et à Washington, le président Obama a déclaré attendre des autorités ougandaises qu'elles respectent les droits de tous ses citoyens, indépendamment de leur orientation politique, et de permettre à l'opposition de jouer son rôle légitime sur la scène politique. La TAT, le quotidien de Berlin, relève avec satisfaction que c'est là un ton tout nouveau de la part de Washington vis-à-vis du régime, dont les unités spéciales ont été formées par des instructeurs militaires américains.
L'Afro-Presse était estampillée Philippe Poyen. Merci Philippe et je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine.
Merci et je souhaite la même chose à vous Eric et aussi bien sûr à tous nos auditeurs.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
On a tout compris. Allez-y aux hommes politiques.
salaire d'honneur dans le business. On a tout compris. Ils nous utilisent comme des chameaux dans des conditions qu'on déplore. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Ils allument le feu.
Et c'est ici que s'achève le grand format du magazine Afrique 7 jours de ce dimanche 6 mars 2016. C'était Eric Topona à la présentation et je vous quitte sur ce proverbe ivoirien. Le petit poisson et le crocodile qui habitent la même rivière se connaissent très bien. Restez fidèles au reste des programmes de la Deutsche Welle, la radio internationale allemande, et à la semaine prochaine.
Destination.